Radio Okapi. Journal présenté par Patience Ngaloula.
Au sommaire de ce journal, 52 personnes sont mordues par des chiens errants depuis quelques jours dans les territoires du Diofa, province du Kwilu, dont deux décès sont déjà enregistrés. Les cadres de concertation provinciale de la société civile du Kwilu qui tirent la sonnette d'alarme craignent les risques de la rage canine et appellent les autorités à prendre leurs responsabilités. Grâce Nkwanga Bilolo, nouveau gouverneur du Congo central, prend officiellement ses fonctions à la tête de cette province. À l'issue de la remise et reprise hier mercredi, le nouveau locataire du building administratif promet de travailler pour l'intérêt et le développement du Congo central. Patience Sai, chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, est l'invité de ce journal dans le cadre de son appui à la stabilisation à l'est de la RDC. La mission onusienne a remis hier mercredi une infirmerie à la prison urbaine de Beni Kangbay. Elle évoque dans ce journal les contours de cet appui et plus globalement de la problématique des prisons en RDC. Bonjour. Les cadres de concertation provinciale de la société civile du Kwilu tirent la sonnette d'alarme contre les risques de la rage canine au village Mateko, dans la zone de santé de Mokala, territoire d'Idiofa. Au total, 52 personnes ont été mordues par deux chiens errants depuis quelques jours dans ces villages, dont deux décès sont déjà enregistrés. Cette organisation dit redouter l'aggravation de la situation. Il appelle les autorités à prendre leurs responsabilités pour que des solutions soient trouvées contre ces animaux. Le premier vice-président Placide Moukoua est au micro de Irène Bomaluzolo.
Les autorités et locales et provinciales doivent prendre leurs responsabilités. Tout le monde doit apporter son intelligence et sa pierre pour qu'on éradique pour de bon cette situation qui perdure dans la gestion des animaux, mais aussi dans la gestion des personnes et les déplacements des personnes. Parce qu'il s'agit d'une question de contamination. Les chiens continuent à errer, les hommes continuent à circuler. Il faut qu'on cherche quand même à encercler la maladie et prendre des mesures qui s'imposent. Donc, j'invite les autorités à prendre les mesures opportunes. Les autorités administratives, la police et les chefs de secteur doivent aider les autorités sanitaires à bien faire leur travail. S'il faut abattre tous les chiens, on abat les chiens. Je crois 2 ans ou 3 ans après, on va renouveler sans problème. Aujourd'hui, dans les coins, chacun se promène avec un bâton pour se protéger et pour attaquer les chiens qui courent encore dans les rues. Nous devons éviter qu'il y ait embrasement.
Au Congo central, le nouveau gouverneur prend officiellement ses fonctions à la tête de cette province. La cérémonie de remise et reprise entre Grâce Nkwanga Bilolo et son prédécesseur Guy Bandou a eu lieu hier mercredi à Matadi. Signalons que ce dernier était représenté par Anne-Marie Tsassa, ministre provinciale de la justice du gouvernement sortant. Dans son adresse, le nouveau gouverneur du Congo central promet de travailler dur pour l'intérêt et le développement de la province. Les cadres de concertation de la société civile du Congo central salue l'avènement du nouveau leadership dans la province et dit attendre de celui-ci plusieurs réalisations pour sortir le Congo central du gouffre, selon ses propres termes. Les points avec Nana Pluriche Mambou.
Travailler pour l'intérêt et le développement du Congo central et restaurer la vraie cohésion entre les filles et fils de cette province, c'est parmi les priorités sur lesquelles Grâce Nkwanga Bilolo compte focaliser ses efforts. Pour les cadres de concertation de la société civile, le nouveau gouverneur du Congo central a plusieurs défis à relever en vue de sortir le Congo central du gouffre dans lequel il se trouve. Gilles Benga.
Les défis majeurs qui attendent le nouveau gouverneur du Congo central, d'abord et avant tout les plaidoyers, le gouvernement central, relatif à la relance des activités ferroviaires entre Matadi et Kinshasa pour mettre fin aux embouteillages et accidents sur la nationale numéro 1. La construction des routes de dessertes agricoles et les routes de voiries urbaines dans les villes et grands centres de la province du Congo central.
Signalons que la cérémonie de remise et reprise a été présidée par l'inspecteur provincial de la territoriale, Sabin Sadiboko, en présence du président de l'Assemblée provinciale, Papi Mantezolo, des députés provinciaux ainsi que différentes personnalités. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
Et puis, le gouvernement fédéral allemand reste préoccupé par la situation humanitaire dans l'est du pays et accompagne le gouvernement de la RDC dans tous ses efforts pour résoudre cette crise. C'est ce qui ressort des échanges mardi entre les commissaires du gouvernement allemand Louise Amtsberg et la vice-ministre des Affaires étrangères Gracia Yamba Kazadi avec l'ambassadeur marocain Rachid Agassim et sa délégation. Les échanges ont porté sur la deuxième édition du projet annuel de l'octroi des bourses universitaires. S'exprimant au nom de la ministre titulaire aux Affaires étrangères, Coopération internationale et Francophonie, Thérèse Kaikwamba, en déplacement, Gracia Yamba Kazadi a salué ces échanges diplomatiques tout en insistant sur le respect de la souveraineté des pays africains et de la RDC en particulier. Au Nord Kivu, plus de 70 présumés délinquants interpellés en l'espace de 24 heures dans le cadre de l'opération Safi Shanji ou à Goma entendaient nettoyer la ville de Goma. Le premier groupe de 12 personnes a été présenté au public mardi, suivi du second hier mercredi. Plusieurs griefs sont mis à leur charge, dont le banditisme, la débauche, la divagation pour quelques hommes en uniforme et les séjours irréguliers pour certains sujets étrangers. Chris Mukand.
Les femmes accusées de séjours irréguliers en ville de Goma, 6 au total, sont des nationalités rwandaises. Elles ont été interpellées lors des bouclages organisés quasi régulièrement dans le but d'endiguer le banditisme urbain dans une opération spéciale baptisée Safi Shamujo à Goma, littéralement traduit « nettoyer la ville de Goma ». Leur cas a été confié au service des migrations. Un second lot d'interpellés comprend 17 filles, dont 7 âgées de moins de 18 ans. Elles ont été cueillies dans des maisons de tolérance. Le sous-lieutenant Olivier Sadiki de la 34e région militaire a également présenté 3 militaires du 113e régiment des FRDC. Ils ont été trouvés en errance avec des ordres de mission falsifiés. Ils ont été orientés vers les juridictions militaires. Parmi les 16 criminels présentés à la même occasion figurent les repris de justice. Avec les 12 autres présentés mardi, ils devraient répondre de leurs actes face à la justice. Que justice soit rendue fermement, clame le commissaire supérieur principal, Faustin Kapen-Kamand, maire de Goma. Chris Mukand, Goma, Radio Kapi.
Ici à Kinshasa, les fêtes sont là, il faut investir dans la prévention. Tel est le thème de la Journée internationale de lutte contre l'abus et les trafics illicites des drogues, célébrée le 26 juin. À cette occasion, l'ONG Minzoto, en collaboration avec le Programme national de lutte contre la toxicomanie PNLCT, a lancé une série d'activités de sensibilisation à l'intention des jeunes. La première a eu lieu, c'est mercredi, à l'aumônerie protestante du camp lieutenant-colonel Kokolo. Elle a pour objectif de conscientiser les jeunes sur les dangers de la prise des drogues. Au micro d'Étienne Lissoumbou, le directeur du Programme national de lutte contre la toxicomanie, Patrice Milambo, explique l'importance de cette activité et les choix de ces camps militaires.
Les données en rapport avec les méfaits de consommation de drogues sont connues. La drogue est à la base de maladies non transmissibles, et un facteur de risque de maladies transmissibles, et facteur de risque pour les phénomènes sociaux, ainsi de suite. Les évidences existent. Mais maintenant, il nous faut investir dans la prévention. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et vous me demandez pourquoi on a choisi le camp Kokolo. C'est tout simplement puisque dans les données, on a trouvé qu'au niveau du camp, la consommation est très élevée. Or, vous savez, un pays sans armée, il est voué à l'échec, puisqu'en fait, c'est eux qui nous protègent. Il faut qu'ils aient des têtes calmes, des têtes assises, des têtes non troublées pour nous protéger. Alors, c'est comme ça que nous avons dit non, il nous faut intervenir au camp où il y a des dépendants, où il y a des militaires, où il y a des policiers, où nous devons passer l'information.
À Kinshasa toujours, les centres de recherche et d'études sur l'état de droit en Afrique, CREEDA, désapprouvent la décision du ministre de la Justice de supprimer les folios 92, formulaire attribué jadis à titre d'accusé de réception aux demandeurs de la personnalité juridique. Par un communiqué du 20 juin dernier, le ministre demande aux associations sans but lucratif et aux églises de faire une nouvelle demande de la personnalité juridique en déant un mois alors que conformément à la loi qui les régit, selon CREEDA, c'est 6 mois après le F92 si les ministres n'accordent pas cette personnalité, celle-ci est d'office acquise. Les communiqués du ministre violent la loi en ce qu'il restreint les libertés d'association et ce n'est pas un arrêté, réagit CREEDA à ces communiqués. Il recommande au ministre de respecter la loi et de tout mettre en œuvre pour garantir l'intégrité de la liberté d'association. Le vice-président du conseil d'administration du CREEDA, Paulin Punga, l'a dit au micro de Jeff Ngoy.
La matière relative aux associations sans but lucratif, c'est une matière qui relève de la loi et le ministre ne peut pas se prononcer par simple communiqué, surtout lorsqu'il s'agit de restreindre une liberté, ici à savoir la liberté d'association. S'agissant du fond, normalement, au terme de la loi, lorsque vous avez déjà sollicité la personnalité juridique et que vous avez l'avis du ministre constaté par les F92, vous pouvez fonctionner. Et au-delà de 6 mois après l'obtention du folio 92, si le ministre de la Justice n'a pas encore pris un arrêté accordant la personnalité juridique, celle-ci est d'office acquise. Donc, le ministre ne peut pas interdire aux associations qui ont déjà acquis cette personnalité juridique leur demander de pouvoir se conformer encore à la loi en faisant la demande de personnalité juridique.
En rapport justement avec la suppression du F92 et tant d'autres questions qui touchent à la justice, le ministre d'État et ministre de la Justice est resté injoignable en dépit de nos multiples sollicitations. Par ailleurs, sachez aussi que Constant Moutamba a échangé mardi sur les problèmes de son secteur avec plusieurs responsables des églises du Réveil et Monseigneur Donatien Cholet de l'Église catholique. Ces derniers encouragent plutôt les nouveaux patrons de la justice congolaise à aller de l'avant conformément à l'éducation catholique afin de redresser les secteurs de la justice, de lutter contre les antivaleurs et de résister aux pressions extérieures. Il a également plaidé pour la récupération de certaines concessions de l'Église catholique spoliées. Dans la province de la Tchopo, l'Institut facultaire des sciences agronomiques, j'y arrive, IFA, Yangambi, plaide pour la réhabilitation de ses infrastructures. Ce plaidoyer a été fait par le secrétaire général académique mardi dernier lors de la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne dans les sites de cet établissement. C'était en marge de la cérémonie d'inauguration de la centrale à cogénération du CIFOR. Les diplomates européens qui venaient de se rendre compte sur place de l'existence de cet institution déclare que tous les efforts conjugués pour la formation de la jeunesse congolaise sont à encourager. Un reportage de Jacques Moukonkole.
Salle des cours, laboratoires, bureaux et villas des agents, tout est totalement délabré. Ces infrastructures nécessitent une profonde réhabilitation, déclare le secrétaire général académique de l'IFA Yangambi, le professeur Pichu Meniko.
Nous souhaitons donc que vous puissiez désormais être notre véritable ambassadeur auprès de l'Union européenne, afin que notre rêve le plus ardent de redevenir les centres de la recherche et d'innovation agricole et forestière dans les bassins du Congo redevienne une réalité.
L'IFA sollicite cet appui afin de lui permettre de jouer pleinement son rôle, celui d'assurer la relève de qualité en vue de la production agricole durable et de la conservation de la biodiversité, précise son secrétaire général académique. Dans sa réplique, l'ambassadeur de l'Union européenne dit être prêt à appuyer plutôt la formation, la communication et autres recherches menées par l'IFA. Par ailleurs, le coordonnateur de NABEL, l'agence belge de développement, Prosper Ntema, promet également à l'IFA l'accompagnement de son institution.
Nous adhérons à renforcer le plan de développement stratégique de l'IFA et d'ici quelques jours, il y aura déjà un bureau d'études qui viendra accompagner le personnel administratif et financier de l'IFA pour pouvoir mener à bien les gouvernances d'institutions.
Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Autre nouvelle, une année après avoir commencé les recrutements des candidats pour sa 9e promotion, l'École nationale de l'administration ENA RDC poursuit les lundis prochains ses processus. Elle invite donc ainsi tous les candidats qui ont réussi aux épreuves écrites de se présenter lundi sur les sites indiqués pour passer les tests oraux de ces recrutements. Écoutons à ce sujet les recteurs de cette grande école, Guillaume Banga, au micro de Donna Madimba.
Le processus de recrutement de la 9e promotion de l'ENA reprend dès la semaine prochaine avec l'organisation de l'épreuve orale dans les pôles qui seront communiqués par la direction générale de l'ENA à travers le site web www.ena.cd et d'autres canaux usuels. J'invite donc les 436 candidats retenus à l'issue de l'épreuve écrite d'affûter leurs armes pour espérer se retrouver parmi les 100 meilleurs candidats à retenir pour suivre le programme de formation initiale de l'ENA.
Actualité internationale.
À Mauritanie, à quelques jours de l'élection présidentielle, la commission électorale qui s'est sait très attendue après des élections législatives contestées tente de rassurer et multiplie les prises de parole au sujet des moyens mis en place pour garantir la transparence des élections. Elle a donc profité de l'occasion pour présenter son système informatique et de rappeler que depuis un an, les résultats sont publiés en temps réel.
L'invité.
Patience Sai, chef de l'unité d'appui à l'administration pénitentiaire de la MONUSCO, est l'invité de ce journal. Dans le cadre de son appui à la stabilisation à l'est de la RDC, la mission onusienne a remis hier mercredi une infirmerie à la prison urbaine de Beni Kangbay. Patience Sai s'entretient avec Marc Marofimbo pour évoquer les contours de cet appui et plus globalement de la problématique des prisons en RDC.
Madame Sai Patience, bonjour.
Bonjour.
Quel est le type d'appui que la MONUSCO apporte à l'administration pénitentiaire de la RDC pour aider l'État à humaniser davantage les prisons du pays?
La MONUSCO, à travers son unité d'appui à l'administration pénitentiaire, œuvre dans plusieurs domaines. Depuis l'entrée de la prison jusqu'à la sortie, je parle tout ce qui s'agit des infrastructures, de soins de santé, bien-être des détenus, même le personnel. Donc il y a des fois même qu'on intervient dans des situations de malnutrition, des appuis ponctuels, parce qu'il y a des fois qu'on arrive à avoir les détenus qui sont décédés à cause de malnutrition, donc il y a des interventions en collaboration avec les partenaires comme CIC et autres. Et en plus de ça aussi, nous œuvrons dans le renforcement de la capacité du personnel, tout ce qui s'agit de leur réponse à la sécurité, et surtout dans le contexte de la protection des civils, parce qu'on note également que ce sont des détenus qui, au cas où ils arrivent à s'en sortir, bien s'évader, vont menacer quand même la sécurité de l'État. Donc c'est un aspect aussi capital pour nous. En plus de ça, on a un aspect de plaidoyer, où on fait en ce qui concerne la budgétisation pour s'assurer que les prisons ont assez de financement de fonds côté gouvernement pour pouvoir nourrir, prendre en charge les détenus. Il y a aussi l'aspect de réinsertion sociale et même pourquoi pas les divertissements, parce que là il y a des jeux qu'on met dans leur milieu pour pouvoir jouer, pour se distraire un peu. Et également il y a aussi les activités de formation professionnelle pour les détenus. Donc on a appuyé à l'élaboration des textes qui a été déjà même passé par le président en juin. Et donc, je pense que c'est un pas déjà franchi. On va continuer à appuyer à la mise en œuvre de la réforme du système pénitentiaire de la RDC. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la sous-population carcérale. J'ai remarqué partout, pas seulement ici. C'est une prison conçue pour 100, maintenant elle héberge 1000 et plus. Donc c'est un interpelle aux autorités judiciaires. Je pense que c'est un problème à résoudre d'une manière holistique avec tous les stakeholders de la chaîne pénale, parce que ça ne peut pas se faire par les pénitentiaires eux seuls. Mais ce qui a changé pour moi, je pense que c'est la sécurité, parce que les menaces existent, mais les attaques, on s'en parle. Parce qu'ils arrivent à quand même trouver des mécanismes de bloquer ces attaques. Vous allez voir qu'il y a les CCTV, il y a les caméras, donc on a quand même l'œil partout. Même si le personnel n'est pas suffisant, mais on arrive à voir dans tout le coin. Il y a également l'aspect des décès. Avant, on enregistre les décès chaque jour, mais au moins ils arrivent à avoir quelque chose à manger qu'avant il n'y avait rien.
La plupart des prisons du pays connaissent les mêmes problèmes, carence d'eau, de nourriture, des médicaments, des lits, surpeuplement. Comment la MONUSCO œuvre-t-elle pour aider l'État à résoudre ces problèmes?
Moi, je peux dire que comme on n'a pas un mandat exécutif, on a un mandat plutôt appui, donc on ne peut pas prendre les choses en main. D'ailleurs, on ne garde pas les prisons, mais on est là pour apporter appui, conseil et technique et pourquoi pas logistique, le quips. Mais la plupart des choses se font à travers le plaidoyer et ça apporte de fruits. Je peux dire qu'un impact qu'on a eu, c'est quand le budget a été, je pense que c'était, ça fait déjà 3 ans, avec Madame Rose Mutombo, la ministre qui vient de partir. Le budget était vraiment minime, mais elle a pu augmenter à un niveau vraiment appréciable. Donc ça fait que le plaidoyer passe, c'est lent, ça prend du temps, il y a beaucoup à faire.
Alors, la prison est un lieu de correction pour des personnes qui ont enfreint les lois d'un pays. Comment travaillez-vous pour la réinsertion sociale des détenus une fois sortis de la prison?
Il y a une politique qui a été développée en collaboration avec le PNUD. Maintenant, c'est la mise en œuvre de cette politique. Parce qu'avant, c'était d'une manière ponctuelle qu'on intervient. Mais maintenant, avec cette politique, ça sera vraiment organisé et canalisé en sorte que, en essayant de faire une évaluation de province, on va dire que, OK, dans telle province, on peut faire telle activité parce qu'il y a le marché pour le détenu, il peut s'intégrer facilement, ils vont trouver le travail. Et puis donc, ce sont des actions spécifiques dédiées aux provinces selon les matières primaires qui existent là-bas, mais aussi le besoin en tant que ressources humaines.
Patience Saïd, merci.
Merci beaucoup.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition d'information mise en onde par Billy Landry Betou, supervisée et coordonnée par Pelé Kipela Mondo à la présentation Patience Ngalula Mbombo. Merci de votre fidélité.